quand on a passé 10 ans à refaire bêtement le même modèle identique tout le temps, enfin, j'avais saturé de ça. Et je saturais tellement de cette contrainte-là que j'arrivais même plus à avoir envie de faire quelque chose chez moi le week-end, quoi. Vraiment, ça me bouffait complètement.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Bonjour, on se retrouve pour ce troisième épisode des Mains Libres dans le Puy-de-Dôme. On va à la rencontre d'Odile qui a ouvert un super atelier de maroquinerie. Odile nous raconte comment elle s'est formée pour travailler le cuir, pourquoi elle a décidé de monter sa propre marque et tous les secrets qui se cachent derrière Crocopic. On te souhaite un bon moment en sa compagnie.
Bonjour Odile, merci de nous accueillir dans ton atelier.
Bah écoute, le plaisir est pour moi.
On va en profiter vu qu'on vient d'arriver pour, si tu veux bien, nous faire visiter, nous expliquer rapidement un peu comment ça fonctionne. Si tu as un espace de stockage, les machines que tu utilises, etc. Pas forcément très précisément, mais juste les grandes étapes, en gros.
Alors, là, du coup, déjà, dans cette partie-là de l'atelier, j'ai déjà les plus grosses machines qui prennent un petit peu de place, mine de rien. Donc là, on a une presse, qui est donc une presse de coupe. En fait, le plateau ici se lève. Ça permet de disposer le cuir là sur le bio. Et avec un emporte-pièce, je déclenche la coupe. En fait, le plateau vient écraser l'emporte-pièce et découpe la pièce de cuir aux dimensions exactes dont j'ai besoin. Parce que je fais faire mes emporte-pièces par une entreprise qui les réalise sur mesure, en fait. Donc voilà, donc là, la première étape, ça va être de réaliser la coupe. Donc soit à la presse, soit à la main, selon ce que j'ai à faire. Mais disons que la presse, ça permet de gagner du temps et,
oui, quand
et faire les
faire
choses un petit peu plus en série, voilà. En série, pour moi, tout est relatif. Hein. Déjà, quand j'en ai coupé une quinzaine de pièces identiques, c'est déjà énorme à mon échelle. Donc voilà. Ensuite, donc en machine, éventuellement en préparation, je peux avoir du parage à faire. Donc le parage, c'est-à-dire que je vais désépaissir le cuir sur une zone, sur le contour d'une pièce. En fait, ça permet, quand on doit assembler plusieurs pièces de cuir ensemble, le fait de désépaissir chaque extrémité, en fait, va permettre de pouvoir la passer en machine à coudre plus facilement. Parce qu'à un moment donné, si on passe 6 mm d'épaisseur, ça commence à faire un peu beaucoup. Même si j'ai une machine performante, ça peut être utile pour gagner de la souplesse, en fait, au niveau du cuir, de le désépaissir sur les contours de la pièce. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai une machine à coudre pour le cuir. Et une machine qui sert pour le textile, donc c'est une machine semi-industrielle, histoire que ce soit du matériel performant qui supporte de travailler pas mal d'heures sur la journée et être utilisé à une intensité assez importante. Et donc là, j'ai un banc de ponçage qui me permet de poncer les contours du cuir, en fait. Donc après avoir fait la couture, parce qu'on a toujours du débordement de colle, éventuellement si on a collé les différentes épaisseurs entre elles, on a éventuellement des petits défauts de coupe, ça permet de régulariser la tranche du cuir pour après ensuite appliquer une finition. Donc voilà, j'ai mon banc de ponçage, et puis voilà, essentiellement dans le matériel à l'atelier, c'est entre guillemets tout ce que j'ai. Après, il y a un lycée professionnel sur Saint-Éloi, ouais, qui a du matériel relativement coûteux, qui m'est utile et que du coup, de temps en temps, je vais utiliser. Et notamment, la machine en question, c'est une refendeuse. Donc c'est une machine qui permet de désépaissir le cuir. Quand j'achète des peaux qui sont trop épaisses pour l'utilisation que je vais en faire, ça me permet d'aller désépaissir toute la surface de mes pièces, pas juste sur les contours comme avec la pareuse, mais vraiment toute la surface. Voilà. Et donc du coup, j'ai une convention de, qui a été établi avec le lycée qui me permet d'aller utiliser ce matériel-là quand j'ai besoin.
Oui, parce que ça t'aurait servi à rien, enfin à rien d'investir. Enfin, ça aurait été compliqué pour toi d'investir dans une machine.
Déjà, c'est une machine qui prend beaucoup de place. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en pourrais pas en mettre beaucoup plus que ça. C'est une machine qui prend vraiment beaucoup de place. En gros, il me faudrait l'espace de ces deux machines-là pour pouvoir la loger, quoi. Ouais. Et c'est du matériel vraiment très coûteux. Et au final, tout de suite, je me rends compte que quand j'utilise l'équivalent de 5 ou 6 heures par mois, c'est le maximum. Donc, ouais, investir autant d'argent pour si peu d'utilisation, entre guillemets, autant que j'aille au lycée, et voilà, ça m'arrange comme ça. Et puis bah après, voilà, j'ai un petit espace de stockage qui n'est pas très grand. Et voilà, mon atelier se résume à ça, avec un petit peu de stockage de produits finis. Et puis bah après, quand j'ai plus la place à les avoir ici, je ramène chez moi.
Tu fais quoi un peu comme gamme de produits ?
Alors tout de suite, je fais essentiellement du sac à main et notamment j'ai commencé avec un produit tout simple qui est un simple cabas pour lesquels j'utilise du cuir et mais également du tissu, ce qui me permet de mettre beaucoup de couleurs, de varier beaucoup en fait les coloris, les motifs. Voilà, ça me permet aussi de maîtriser un petit peu le coût de production, le prix final du produit. Parce que là, je suis allée chez mon fournisseur il y a 2 jours. On est en train de prendre une augmentation comme avec le gasoil. Hein.
Ouais.
Donc voilà, là ça me permettait de commencer avec des produits encore à prix raisonnable. Là on me demandait des produits tout en cuir, ce que je comptais faire maintenant assez rapidement aussi pour les personnes qui préfèrent du tout en cuir, mais là sur les prix on sera plus du tout sur la même gamme, quoi.
Ouais.
Donc le but c'était de pouvoir aussi proposer des choses à des tarifs raisonnables et plus coûteux pour que ça convienne à ce que chacun a envie d'avoir. Mais voilà, pour l'instant, je fais essentiellement des cabas. Je propose des gammes de petites boucles d'oreilles aussi, parce que du coup, pour Noël, ça permet... j'avais commencé au moment de Noël, ça permettait de faire des petits cadeaux pas trop chers. Aussi, les accessoires qu'on achète facilement et qu'on aime bien renouveler régulièrement.
Ouais.
Et puis voilà, après, mon but maintenant, pour l'année qui vient, ça va être de développer... aussi des produits pour hommes, notamment de la sacoche ordinateur, des cartables pour les gens qui ont besoin de se déplacer chez leurs clients avec des dossiers, ce genre de choses. Des fois, rien qu'avec les fermoirs, en mettant des choses plus rectangles, plus carrées, ça donne un aspect plus masculin avec certains cuirs aussi. Il y a certains produits, honnêtement, qui pourraient être tout à fait unisexes sans problème.
Oui. Hein. Oui, je pense que c'est une question d'utilisation aussi.
Aussi.
Oui. Enfin, ça, je pense que ça dépend très bien des gens, mais je ne sais pas pourquoi je vois mal, par exemple, mon père se promener avec un cabas.
On est bien d'accord.
Comme
ça.
Mais je pense que ce n'est pas qu'une question d'esthétique, parce que tu pourrais changer le tissu et ça marcherait pareil.
Mm-hmm.
Mais ça reste un produit.
Pour moi assez
aussi.
Féminin, mais il y a d'autres modèles, honnêtement je pense qu'on pourrait tout à fait être sur quelque chose qui soit pas genré du tout.
Ouais.
La sacoche ordinateur, ça me paraît un bon lancement produit pour hommes. Après la ceinture aussi, j'aimerais en faire des sacs de voyage, enfin voilà, petits sacs à dos, des choses un peu toutes les utilisations.
Mais du coup par rapport à ça, t'as commencé il y a combien de temps ? Moi, c'était une question importante parce que je vois que... Enfin, on a vu l'autre jour au marché, t'avais 3-4 produits différents, il me semble,
oui,
qui étaient présentés.
Oui,
et
pour l'instant, j'en ai...
C'est toi qui les as développés, j'imagine.
Oui.
Et du coup, depuis combien de temps t'as commencé ?
J'ai commencé... En fait, je suis locataire ici depuis le mois de mai. Donc, l'entreprise existe officiellement depuis mi-mars, mais je suis locataire ici du local depuis le mois de mai. Et puis, j'ai pas reçu tout mon matériel tout de suite. Le temps que j'aille démarcher les fournisseurs, j'ai commencé vraiment à élaborer mes premiers produits au début de l'été, en fait.
D'accord. Okay.
Donc voilà, le cabas, c'était la façon de commencer simplement avec des produits techniquement qui sont plus simples.
Mais du coup, le fait d'avoir déjà tout ça maintenant, on peut imaginer que la suite va arriver. Enfin, j'ai l'impression que ça va arriver assez vite, quoi.
Oui, oui, après, assez vite, mais c'est comme pour tout, le temps de développer, de faire un premier produit, d'apporter les modifications éventuellement qui sont nécessaires. Mine de rien, ça prend un peu de temps parce que tout de suite avec un peu de paperasse, j'aimerais que ça avance plus vite, mais c'est vrai qu'il y a des produits que j'ai encore pas développées, qui sont en kit dans un coin. J'ai pas encore eu le temps de finir de monter, mais voilà, maintenant, s'il faudrait que j'accélère le mouvement là pour le printemps et que rapidement j'ai pas mal de nouveaux modèles pour que les gens soient curieux de venir découvrir mon travail.
Ouais. Mais du coup, par exemple, là, quand on est arrivé, tu nous disais que tu faisais de la paperasse, etc. On a vu qu'il y a toutes les machines et les trucs en cours. Comment tu gères ton emploi du temps, mais après, combien de temps ça te prend de faire les différentes choses? Combien de temps tu prends en développement, par exemple? Ou alors la production par semaine, je sais pas combien de temps ça
c'est,
prend.
Pour l'instant, j'arrive pas du tout à chiffrer, honnêtement, parce que c'est vrai que même sur les dossiers de demande de subvention, des choses comme ça, en plus, je suis pas très douée avec l'informatique, il faut tout envoyer, faut se connecter sur leur site, créer des comptes, et enfin, il y a des fois, c'est un petit peu compliqué, répondre à leurs questions qui sont pas toujours très claires, enfin, donc j'ai passé un temps fou. Et il manque toujours un papier, donc il faut toujours aller rechercher le morceau qui manque. Enfin, non, honnêtement, ça m'a pris énormément de temps.
Ouais.
Mais je ne saurais pas le quantifier, très honnêtement.
Plus clairement, je ne sais pas, par exemple, pour produire un cabas comme ça, combien de temps tu mets? Tu saurais me dire?
Même pas. Parce qu'en fait, j'ai fait en série et je suis toujours entrecoupée par autre chose.
Par autre chose, d'accord.
Ouais. Donc, tout de suite, voilà, maintenant, ça va être les choses qu'il va falloir que j'arrive à mettre en place maintenant. C'est pouvoir me caler des moments de production pour que je puisse quantifier le temps que je passe à faire chaque chose.
Ouais.
Et qu'après, ça me facilite l'organisation et que quand quelqu'un me posera la question, notamment pour une commande, que je sois capable de dire à partir de quel moment je vais être disponible pour lui réaliser sa commande. Ouais. C'est vrai que ça, c'est tout un aspect d'organisation que pour l'instant...
C'est aussi un peu le côté de l'entrepreneuriat, de dire tu dois gérer ton entreprise au complet, c'est pas que la production.
Oui, oui, mais c'est vrai que c'est... Et puis je suis pas une acharnée de l'organisation, donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir que j'arrive à me caler. Ouais. Et c'est la difficulté de se lancer là-dedans, c'est que toutes ces choses-là, on n'arrive pas à quantifier avant de se lancer. Au début, je me disais, quand même, si je pars sur une base de 35 heures de production par semaine, étant donné que je faisais plus avant, il y a la partie paperasse qui se greffe dessus, mais bon, on sait bien qu'un chef d'entreprise, alors pas que je me considère comme un chef d'entreprise, mais un artisan... Il y a la partie paperasse, mais on ne travaille pas 40 heures par semaine, ouais. On est bien d'accord, on est toujours au moins à 60 heures ou même davantage. Donc je m'étais dit 35 heures de production par semaine, quand même, ça doit être facile à faire. Quand même. Je pensais partir sur une base, je suis bien là en prod au moins 35 heures par semaine, mais c'est vrai que sur un nouveau produit, il y a le petit schmilblick qu'il faut régler, qui n'est pas passé comme on avait prévu ou quoi, ou la machine qui commence à bugger un peu, donc il faut renettoyer. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte et qui font vite perdre beaucoup de temps, en fait.
Mais du coup, ça m'amène à te poser la question, on en avait un peu parlé au marché l'autre jour, mais de comment t'en es arrivée à te lancer, en fait, j'allais dire toute seule dans ton entreprise, faire tes propres produits et tout. C'est quoi l'historique, ce que tu faisais avant, comment t'en es arrivée à faire de la maroquinerie?
Alors, à la base, moi je suis issue du secteur de la bijouterie. J'ai fait mes études vraiment, donc j'ai un brevet des métiers d'art, un CAP et un brevet des métiers d'art en bijouterie. Et donc, j'en suis arrivée à la maroquinerie. Moi, j'ai travaillé en bijouterie, mais alors, j'ai fait mes études vraiment sur le travail du métal. Et en fait, je suis partie, suite à mes études, je suis partie en Italie 4 ans. Et j'avais bifurqué vraiment sur le travail des pierres. Donc, j'ai exercé le métier de lapidaire pendant 4 ans. Et à ce moment-là, on a connu la crise au niveau de la bijouterie. Enfin, voilà, je me suis retrouvée à changer d'entreprise plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvée au chômage, tout simplement. Donc, je cherchais à reprendre un métier de toute façon manuel. Parce que sur le moment, la bijouterie, c'était un peu bouché. Donc, je cherchais autre chose, mais qui reste manuel. Parce que très concrètement, je ne sais pas exactement ce que j'aurais été capable de faire d'autre qu'un métier manuel. Donc voilà, la maroquinerie à ce moment-là est ressortie du lot, en sachant que c'était une période où les marques de luxe embauchaient pas mal. Voilà, j'ai répondu à une annonce en maroquinerie, en sachant qu'ils commencent par former les gens à la production de leurs modèles. Et voilà, donc ils s'occupent de la formation de chacun, donc a priori, voilà, ça posait pas de soucis. Le fait que je connaissais rien à la maroquinerie, très concrètement, à ce moment-là, je suis en novice totale, quoi.
D'accord.
Oui, oui. Et puis comme la plupart de mes collègues, en fait, hein. Et donc voilà comment j'en suis arrivée à la maroquinerie. Et donc j'ai travaillé chez un sous-traitant d'Hermès pendant 10 ans et très honnêtement, j'ai saturé J'ai saturé de la façon dont était organisé le travail. C'était pas fait pour moi. Parce qu'après, il y a des gens à qui ça convient, mais moi, dans mon caractère et tout, enfin, voilà, faire la course à la production, certes à la qualité, mais de façon pas si évidente que ça, parce qu'on se rend compte que ce qui compte, c'est surtout de faire beaucoup, ouais, plutôt que faire vraiment très bien. Et puis voilà, parce que moi, je cadrais pas dans le... Comment dire, dans le... Dans l'organisation de l'entreprise, c'était pas dans mon tempérament de me retrouver tous les mois avec ma fiche de statistiques pour savoir si j'avais été assez performante, assez productive, assez... Enfin voilà quoi, ça c'est une façon de travailler moi qui m'a usée.
J'allais dire c'est marrant, non c'est pas très drôle, mais on n'imagine pas vraiment de l'extérieur que c'est comme ça, même dans une grande entreprise. Enfin je sais pas pourquoi, moi je me dis ça reste de l'artisanat et ça reste. On a le temps de faire les choses, mais en fait la façon dont
c'est l'artisanat, mais on n'a pas le temps de faire les choses parce que on a des objectifs de production à tenir, parce que ça laisse pas... Tout est tellement organisé, tellement cadré. Alors, comme je suis un petit peu bordélique, ça coince. Mais tout est tellement cadré que dès qu'on a un souci, une casse, parce que c'est des choses qui arrivent, c'est la course tout de suite pour arriver à rattraper le temps perdu. Ouais. Pour voilà, un sac où il y a un problème, le cuir, il casse. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Le jour où il faut redémonter... Attendre que la pièce soit recoupée et puis bah, après il faut reprendre son travail. On y perdait un temps et puis on n'a pas le temps de. Tout est tellement cadré, tout est tellement organisé que bah, ce genre d'aléa, ça devenait compliqué à gérer à chaque fois qu'on avait un problème, quoi. Donc voilà, on a l'impression d'être toujours à la course toute l'année. Il n'y a pas de période de creux parce que forcément le luxe tourne tellement fort. Ouais, ben non. Et voilà, on ne peut même pas dire qu'il y a une période de l'année où on peut souffler un peu. C'est plus calme, ça n'existait pas. C'était toute l'année à fond la caisse. Donc c'est vrai que moi, je ne me suis pas sentie bien dans cet environnement-là. Il y a des filles à qui ça convient et qui sont très heureuses, mais moi, ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament. Donc forcément, au bout d'un moment, ça m'a usée et puis j'en ai eu marre et puis j'avais envie d'arrêter.
Mais de garder ce savoir-faire du coup.
Oui, que t'avais exactement, appris. Parce que malgré tout, ben, j'ai appris des choses qui étaient intéressantes. Après, j'ai pas non plus tout appris de la maroquinerie, mais malgré tout, on a appris une certaine rigueur qui me sera utile dans la façon dont je gère mon travail au quotidien. Et puis après, ben, j'en ai profité aussi pour bénéficier de mon DIF. Le droit à la formation.
D'accord.
Enfin, à l'époque, ça s'appelait encore le DIF. Maintenant, c'est le CPF ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, j'ai profité de mon droit à la formation pour pouvoir, justement, au lycée de Saint-Éloi, entrer en formation et passer mon bac pro sur un an.
Ok. Donc, après, en fait, avoir travaillé...
Après avoir travaillé, en parallèle à ça, oui, parce que je l'ai fait en... 2018 ou 2019, donc j'avais déjà quelques années d'ancienneté dans l'entreprise. Et donc, du coup, j'ai bénéficié de ce droit à la formation qui m'a permis de passer mon bac pro. J'ai été intégrée à une classe d'apprentis et donc j'ai suivi le même rythme d'alternance qu'eux. En fait, parfois, je suis retournée en entreprise en même temps qu'eux et revenir en formation, en fait, entrecoupé comme ça. Et donc voilà, ça m'a permis d'obtenir mon diplôme parce qu'au final, je finissais par exercer un métier pour lequel je n'avais aucun diplôme en fait. Donc du coup, voilà, c'était une formation qui était intéressante parce que moi, notamment en atelier, vraiment dans mon entreprise, la couture à la machine, j'en faisais pas du tout. Je faisais que les parties du sac qui étaient cousues à la main.
D'accord. Oui, en fait, c'était, on va dire, une grosse production, tu faisais qu'une partie. Donc ça t'a permis de voir un peu toutes les,
oui,
les,
voilà,
savoir-faire.
L'aspect conception, de toute façon, on reproduisait le même sac à l'identique tout le temps. La conception ne me demandait pas de réfléchir. Hein. Ouais. C'était juste comment j'allais monter le plus vite possible. Donc voilà. Après, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on recevait toutes les pièces du sac qu'on allait monter, qu'on faisait l'intégralité du montage du sac. Il n'y a que la partie couture à la machine qu'on déléguait à une collègue qui était à ce poste-là spécifique. Moi, je réalisais les parties qui étaient cousues à la main, elle faisait les parties cousues à la machine. Et donc, du coup, voilà, mon travail faisait l'alternance entre son poste de travail et le mien. Mais après, voilà, quand je livrais le sac, il était prêt à être livré à la cliente, en fait. Hein, il était vraiment fini. Il y avait juste la partie contrôle encore à passer, mais voilà. Donc c'est vrai que malgré tout, j'ai pu acquérir une certaine rigueur dans le travail, mais il manquait encore des aspects techniques, notamment de la conception, de la conception sur ordinateur avec notamment un logiciel comme GMP. Enfin, et comme je ne suis pas très calée sur l'informatique, ça a été une partie de la formation pour moi qui était un peu difficile parce que j'ai complètement découvert ce que c'était.
Ouais, mais du coup, ça t'a ouvert. Ouais. Tu l'utilises maintenant ?
Oui. Oui. Oui, voilà. Oui, quand j'en ai besoin, oui, bien sûr, je l'utilise.
Je voulais juste rebondir sur un truc, parce que tu as dit, les filles, en parlant de mes collègues, oui. En parlant de tes collègues, pardon, du coup, quand tu étais en entreprise, c'était principalement des femmes.
Ah bah ça, sur un atelier comment... 30, quand déjà on avait un mec, c'était, voilà. C'était la folie, quoi.
Mais même, par exemple, au lycée, c'est aussi principalement des filles.
Je crois qu'il y a pas mal de filles en maroquinerie dans les sections au lycée, mais il y a quand même plus de... On voit plus les... Oui, dans mon souvenir, on voit quand même un peu plus de garçons qu'en entreprise. Ouais. En fait, c'est
ça
que ça commence à venir, mais après, moi, j'étais dans l'atelier vraiment de production, ouais. Où là, effectivement, c'était pratiquement exclusivement féminin. Mais après, il y avait tout l'atelier de coupe, où là, au contraire, on avait pratiquement que des hommes, en fait. D'accord. C'était presque sectorisé. Les mecs d'un côté, les filles de l'autre. Et ouais, c'est marrant parce que du coup, naturellement, alors je ne sais pas si c'est par rapport au recrutement ou aux compétences que les hommes ont tendance à avoir, mais... Et puis c'est vrai que je crois que les hommes même se plaisaient plus dans le travail avec les grosses machines et tout ça, plutôt qu'à l'atelier à faire des choses minutieuses. Malgré tout, je pense que les femmes ont un peu plus de sensibilité sur la qualité des finitions et ce genre de choses. Après, c'est pas toujours vrai, je pense pas, hein, mais c'est vrai que ça se remarquait beaucoup dans les ateliers. On rentre, il y a pratiquement des femmes. Le mec, il faut chercher pour le trouver. Non, c'est vrai, c'est marrant.
Je voulais aussi poser une question par rapport à, du coup, la formation technique. Donc toi, t'es passé par l'entreprise avant de faire un bac pro, mais du coup, est-ce que tu sais un peu ce qui existe comme formation, on va dire, à part le passage par entreprise ?
Il y a un lycée professionnel classique, hein, comme pour n'importe quel autre genre de métier. C'est des classes qui s'intègrent en sortie de collège pour ceux qui veulent. Après, voilà, ils ont différents types de formations. Je sais que même en bac pro ou en... Après le bac pro, les BTS et tout ça, certains ne sont même pas issus de la maroquinerie. Des fois, ils sont issus du textile et ils intègrent des classes de maroquinerie. Ce qui, moi, me surprend assez parce que quelqu'un qui veut faire un BTS maroquinerie, quand il n'a aucune notion de maroquinerie avant d'arriver sur ce genre de... Sur ce genre de formation, ça me surprend toujours un peu. Mais voilà, c'est voilà, à partir de sortie de collège, ils peuvent intégrer un CAP, un BEP, sans problème. Après, je ne saurais pas dire exactement combien il y a de lycées professionnels qui proposent des sections maroquinerie. Je sais que sur Bordeaux, ça existe. Sur Cholet aussi, à un moment donné, c'était un gros bassin d'emploi. Donc, je pense qu'il y a encore une section... par chez eux, là-haut. Mais après, je ne sais pas exactement combien il en existe au total.
Déjà, moi, je voulais savoir aussi un peu, est-ce que c'était compliqué niveau financier d'installer toute seule dans ton atelier
Ah ben oui, forcément, comme toute création d'entreprise, après, on obtient des aides, des subventions, mais malgré tout, il faut être capable d'aller démarcher la banque, d'aller démarcher les différents organismes éventuellement qui peuvent aider au financement du lancement de l'entreprise. Voilà, donc les organismes bancaires classiques. Hein. Et puis après, moi notamment, j'ai été aidée par... Initiative Rion-Combrail, en fait, c'est un organisme qui permet d'obtenir des prêts à taux zéro, en fait. Donc après, c'est pas le prêt comme la banque où il faut l'assurer. Enfin, c'est un prêt personnel, en fait. C'est pas un prêt qu'on fait à l'entreprise, c'est un prêt qu'on fait à moi personnellement. Ce qui fait que la contrepartie du taux zéro, c'est que même si j'étais amenée à fermer l'entreprise parce que ça fonctionnait pas, l'emprunt, je dois le rembourser malgré tout. Donc ça engage sur plan personnel. Mais c'est vrai que voilà, donc il y a tous les organismes qu'il faut démarcher, essayer d'obtenir des subventions, des aides. Et puis voilà, certes les dossiers sont compliqués à remplir et tout ça, mais quand on les touche, mine de rien, quand on y a le droit, c'est une aide assez importante pour une entreprise comme la mienne. Et puis voilà, après, ben, sur plan personnel, faut accepter d'y passer beaucoup de temps. Il faut accepter de ne pas gagner sa vie et travailler beaucoup pour pas se verser de salaire. Pour l'instant, depuis presque un an, je ne me suis rien versé en salaire. Hein. Donc tout de suite, j'ai encore les droits Pôle emploi qui me permettent d'avoir un budget personnel pour moi. Mais tout ça, ça a une fin. Donc au cours de printemps, clairement, si je ne suis pas capable de verser un salaire au niveau de l'entreprise, je serai sans revenu du tout. Ouais. Donc il faudra continuer à bosser, trouver des débouchés qui permettent d'avancer et de développer l'entreprise et de la faire connaître.
Ouais, ça, c'est un truc qui revient beaucoup parmi les artisans qu'on a rencontrés jusque-là. Surtout au démarrage, c'est assez compliqué. Et tout repose sur tes épaules, on va dire. Donc tu dois... c'est de la création permanente. Tu es un peu sur tous les fronts en même temps. Parce qu'on dit souvent, un artisan, il fait son métier, mais t'es chef d'entreprise. Donc tu fais à la fois la création, la production, la vente, comme on t'a vu sur le marché l'autre jour, tous les papiers, etc. Donc, c'est pas que toi derrière ton établi.
Non, c'est sûr. C'est vrai qu'on m'a fait la réflexion une fois. Je disais, je sais plus, c'était peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre. En disant, il faut que j'ai du stock pour Noël. Il faut que j'avance quoi, et que je produise. Puis on m'a fait la réflexion, depuis le temps, t'as encore pas de stock. J'ai pas fait que ça. Ouais. Donc c'est vrai que sur certaines choses, j'ai peut-être pas avancé assez vite, j'ai peut-être pas été assez efficace, mais à un moment donné, c'est pas juste, comme tu dis, être derrière sa machine à coudre et à envoyer des sacs toute la journée. À un moment donné, on a aussi des rendez-vous. Quand je me déplace chez des fournisseurs, quand je vais sur Thiers, je fais un passage sur Clermont pour d'autres choses, donc je perds ma journée concrètement. Certains fournisseurs, notamment là début mars, je vais aller sur Cholet, sur Angers, donc je vais être partie 2-3 jours. Donc pendant tout ce temps, je ne suis pas en production, je ne suis pas présente à l'atelier. Les gens qui voudraient m'acheter, comme de par hasard, un truc à ce moment-là, je ne suis pas là pour les accueillir. Donc, pour l'instant, les gens ne viennent pas trop directement à l'atelier, donc ça ne pose pas de souci. Mais concrètement, c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre aux gens qu'ils n'hésitent pas à téléphoner avant de venir, parce que je peux être absente, je peux être au lycée à refendre des pots au moment où ils viennent à l'improviste. Je peux être chez ma collègue au Créabar, chez qui j'utilise une surjeteuse pour surjeter tous mes tissus pour avoir des belles finitions, parce que j'en ai pas acheté pour moi. J'avais pas prévu ça dans mon achat de base de matériel, donc je vais l'utiliser chez elle. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites choses. Faut que les gens aussi comprennent un petit peu qu'il faut apprendre à prévenir avant de venir, et voilà.
Et ouais. Moi j'avais une question par rapport aux matières premières. Comment t'as fait tes choix pour tes matières premières, tes tissus, tes cuirs, tout ça? Tu vas chercher toi-même tes matières premières? Comment tu fais tout ça?
Oui, alors c'est pour ça que j'aime bien aller chez Cybelle à Thiers, parce que justement on peut déballer les peaux, je choisis celles qui me conviennent, ça me permet de regarder un peu les défauts, si ça correspond à ce que j'ai envie de faire, si ça me permet, si on n'a pas trop, si j'ai pouvoir couper ce que j'ai à couper en faisant le moins de chutes possible. Enfin voilà, c'est toute une gestion aussi qu'il faut apprendre à faire pour éviter absolument le gaspillage de matière. C'est pour ça que je vais choisir moi-même. C'est vrai que je ne suis pas une adepte de la commande sur internet, parce que le fournisseur, il envoie ce qu'il a, et puis si ça ne correspond pas à ce qu'on cherche ou que la couleur ne nous convient pas, il ne rend pas comme sur la photo, moi je suis assez à cheval sur ce genre de choses, donc je préfère me déplacer, quitte à perdre ma journée pour y aller, et puis parce que c'est un coût de se faire expédier aussi. Donc pour l'instant, comme je me suis encore pas fait envoyer grand chose, ça va, mais des fois pour une commande à 30 €, quand on a 15 € de frais de port, ça fait un peu râler quoi. Donc le cuir, ça pèse lourd, donc pour l'instant je me déplace et je le choisis moi-même, je préfère. Donc après, pour le choix des matières, on est toujours conseillé par les fournisseurs, hein. On peut leur expliquer ce qu'on compte en faire, quel genre de souplesse on a, et puis après faut toucher les peaux pour se rendre compte de ce que ça peut faire, et puis après on essaye, et on n'est pas à l'abri d'avoir fait une erreur. Ouais. Voilà, ça fait partie du jeu aussi. Donc même sur les tissus, des fois j'achète ce qui me plaît en coloris, en motif, Mais il y a des choses, après coup, je me dis, bon, c'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Mais voilà, ben, on apprend de ses erreurs aussi, ça fait partie du jeu. Mais bon, pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai acheté en petite quantité, justement pour pallier à ces éventuels choix pas très judicieux. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, après, et puis il faut aussi se fier à ce que les clients, à la réaction des clients. Parce que s'ils disent « Ah non, moi j'aime pas du tout ça » et que c'est une réflexion qui revient souvent, il faut aussi savoir se dire que c'était peut-être pas une bonne idée, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif à ce sujet-là.
J'aime beaucoup tes tissus, en tout cas. Franchement, tu fais des très bons choix, parce que j'aime beaucoup.
Bah, j'essaye. Alors, je choisis que des choses qui me plaisent vraiment. Mais
oui,
après,
c'est important que ça te plaise à toi d'abord,
voilà,
en fait.
Exactement.
Parce que ça va te faire plaisir et de travailler.
Et bah après, c'est l'image de ma marque aussi, ouais. Ça va être mon empreinte. Donc, je trouve important, je ne suis pas créée mon entreprise pour faire des choix qui ne me conviennent pas. Ouais. Donc là-dessus, voilà, je choisis que des choses qui me plaisent vraiment. Mais après, je pense avoir un choix quand même assez vaste en termes de coloris et de motifs pour que tout le monde à peu près y trouve son compte. Hein. Après, la chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est d'avoir toujours un ou deux tissus un peu plus soft en couleur, un peu plus sobre, un peu plus passe-partout, oui. Pour les personnes qui n'aiment pas trop la couleur, parce que je sais qu'on m'a fait quelquefois la réflexion, ah, mais non, moi j'aime pas trop la couleur. Donc voilà, il faut quand même que je fasse attention à pouvoir satisfaire ces personnes-là et de temps en temps faire des choix un peu plus sobres. Voilà.
Mais moi, je voulais juste rebondir sur un truc. Tout à l'heure, on a parlé un peu des inconvénients de se lancer en entreprise, de comment tu travailles, que c'était long à mettre en place et tout. Mais moi, je voulais savoir plutôt l'autre côté. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec tes mains au quotidien ? Tu disais que tu ne pourrais pas faire autre chose qu'un métier manuel, donc ça veut dire c'était déjà ancré en toi.
Même si j'étais restée salariée, de toute façon, on ne m'aurait pas mise derrière un bureau.
Ouais.
Ça, c'était juste impossible. J'aurais pu, je pense, être fleuriste, être menuisière, beaucoup de choses, mais de toute façon, il aurait fallu que je puisse faire quelque chose de mes mains. Donc voilà, ça apporte une liberté incroyable, en fait. Ça apporte de la liberté, mais quand on commence à être libre, on perd en sécurité, et ça, voilà, c'est le dilemme, en fait, entre guillemets, du chef d'entreprise ou de l'artisan qui s'installe. Il faut être prêt à l'accepter, mais voilà, on gagne tellement.
C'est un équilibre à avoir, quoi.
Voilà, exactement. Mais ça permet d'être tellement libre de faire ce qu'on a envie. Après, il faut que ça plaise. C'est toujours ça, il faut en prendre conscience. Mais c'est vrai que j'ai plus de contraintes horaires d'être au boulot à partir d'une certaine heure. Je gère mon temps comme j'ai envie. Bon, après, tout de suite, concrètement, je gère mon temps comme j'ai envie, mais il faut que je sois présente quand même beaucoup. Et ça empiète éventuellement sur ma vie perso à la maison le soir après manger, voilà. Mais non, c'est quelque chose, moi, qui me convient tout à fait.
Mais je trouve ça intéressant de voir, quand tu dis j'aurais pu être menuisière et fleuriste, t'aimes les métiers manuels en général.
Oui.
Et c'est un truc même dans ton temps, le peu de temps libre qui te reste, ou même avant, quand tu avais du temps libre, tu faisais beaucoup.
Oui. Après, j'aime faire mon potager, j'aime être dehors, j'aime bricoler. Le poulailler de mes poules, c'est une petite cabane qu'on a récupérée qui appartenait aux arrière-arrière-grands-parents de mon compagnon, qui était toute pourrie, mais qu'on a retapée pour qu'elle retrouve une âme. Bah, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je ne suis pas une grande menuisière dans l'âme, mais voilà, c'est des choses, même dans la vie en dehors du travail, qui prend beaucoup de place. Le soir, si je me remets à faire les boucles d'oreilles que je vais mettre en vente, pour moi, c'est... Enfin, on me dit « tu travailles encore ». Alors, quelque part, c'est vrai, mais pour moi, c'est du loisir créatif, en fait. Donc voilà, c'est vrai que de pouvoir s'exprimer enfin, parce que quand on a passé 10 ans à refaire bêtement le même modèle, identique tout le temps, j'avais saturé de ça. Et je saturais tellement de cette contrainte-là que j'arrivais même plus à avoir envie de faire quelque chose chez moi le week-end. Quoi. Vraiment, ça me bouffait complètement. Tandis que là, au moins, j'ai une liberté d'expression aussi.
Mais ça t'a rapporté de la créativité aussi.
Oui, parce que je me rendais compte que ça me ramollissait le cerveau et j'arrivais même plus à avoir envie de faire quoi que ce soit, quoi. Et voilà, la créativité, l'envie qui revient, ça fait plaisir parce que elle m'avait quitté passé un temps et c'est incroyable de voir comment quand on a une vie qui nous convient pas, ça perturbe beaucoup d'autres choses à côté, en fait. plus personnel, mais ça a un impact assez fort, en fait.
Non, mais du coup, ça m'amène à dire que, en fait, quand t'as un esprit un peu manuel et que t'as l'habitude de faire plein de choses avec tes mains, si tu trouves les outils et le matériel qui t'intéresse, tu peux faire... Enfin, comment dire, t'aurais pu aussi bien faire d'autres choses, en fait, si ça t'avait aussi intéressé.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, t'es vraiment assez polyvalent,
oui,
et
c'est
oui, génial.
Moi, je pense que quand on a un manuel dans l'âme, on est polyvalent par la force des choses. Après, il y a des gens qui sont très arrêtés sur une discipline en particulier. Mais c'est vrai que moi, sortie du collège, je ne me voyais pas partir en général, alors que j'aurais pu avoir le niveau pour, mais ça ne m'intéressait tellement pas. J'aurais fini par avoir des mauvaises notes parce que je n'aurais pas été bien dans mon élément, alors que pourtant, mes profs... Enfin, je me souviens d'une réflexion que j'avais prise en fin de troisième, à me dire « Ah non, mais tu vas pas partir en professionnel pour faire un CAP quand même. » En gros, c'était du gâchis. Sauf que j'ai juste envie de demander à ces gens de quel droit ils se permettent de faire ce genre de réflexion.
Quand un jeune à 15 ans sait déjà vers quoi il a envie de s'orienter, enfin, je comprends pas pourquoi il est pas un peu plus encouragé à faire ce qu'il a envie, quoi. À faire ce qu'il aime, à faire ce qui va l'épanouir, plutôt que d'aller en général et de s'y perdre pour rien, quoi. Donc,
Mais malheureusement, c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Même moi aussi, je sais qu'à mon époque, entre guillemets, c'est que ceux qui allaient en CAP, c'était les plus mauvais. Et puis, oui, ceux qui allaient en général, c'était, entre guillemets, l'élite. Bah, et en fait,
on a toujours été triés par la voie du général. Moi, c'était la même chose. Moi, j'ai toujours eu un très bon niveau scolaire quand j'étais au collège et tout. Et je voulais faire de la cuisine. Et en fait, on m'a dit, bah non, attends, passe ton bac général d'abord et ensuite tu verras. Oui. Bon, il se trouve que sur le moment, moi, ça m'a un peu embêtée. Et puis finalement, en fait, je me suis détournée de cette idée et je suis allée faire autre chose après. Mais je pense qu'après un bac professionnel en cuisine, j'aurais tout à fait pu faire ce que je fais maintenant. Donc ça n'aurait pas été problématique.
Oui, moi, je sais que j'ai une maman qui est venue me voir avec sa fille qui est au collège, peut-être bien même qu'en quatrième, qui s'inquiète déjà de l'orientation de sa fille, qui a envie de faire la maroquinerie ou au moins quelque chose de manuel, de dire, oh là là, faut pas qu'elle se trompe. Est-ce qu'à 15 ans, c'est grave de faire une année sur une section professionnelle et de se dire éventuellement, bon, bah, j'ai peut-être fait un mauvais choix, non, ça peut arriver, et puis de se réorienter vers autre chose? Est-ce que c'est grave de passer un an à découvrir quelque chose et de pouvoir se rendre compte si éventuellement ça nous correspond ou pas? Donc voilà, il y a aussi les parents derrière, je pense, qui doivent se détendre un peu parce que voilà, faut en laisser... Enfin, quand le lycée est à proximité de chez soi, que ça n'engage pas des frais financiers, enfin financièrement, c'est pas la ruine... Je veux dire, est-ce que c'est grave de laisser son enfant découvrir quelque chose pour, bah, éventuellement, au pire, il serait réorientera à la fin de l'année, et puis c'est tout, quoi.
Mais je voulais rebondir sur Julien, qui est en train de faire ça en ce moment. En fait, c'est là, on a attendu, enfin, t'as attendu maintenant pour te lancer et dire qu'est-ce que je vais faire dans ma vie et je vais tester plein de choses. Et je pense que bah, c'est typiquement le genre d'argument... qu'il aurait fallu te fournir plus tôt.
Ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est aussi, c'est vrai qu'on est poussé un peu par la famille ou bien même ses amis, hein, qui se disent bah voilà, faut aller dans cette voie, c'est notre voie qu'il faut, c'est la voie qu'il faut faire. Donc bon, non, je pense que faire un CAP c'est très très bien. Même ça nous apporte énormément de choses, même si c'est pas forcément ce qu'on a voulu faire. Et ben ça nous apporte quand même de la maturité et on sait qu'on va pas pouvoir faire ce métier-là plus tard. Et
puis peut-être et voilà. Après ce qu'on aura appris pendant cette année de CAP, même si au final c'est pas le métier qu'on va en faire, dans la vie personnelle nous apportera autre chose. Une fois les années passées, on se rendra compte que ce qu'on a appris à ce moment-là, ben, ça nous est encore utile, quoi. Et voilà, après il y a des moments, faut savoir laisser une petite période de flottement pour pouvoir se rendre compte et décider ce qu'on a envie de faire.
Au contraire, si finalement vraiment ça nous intéresse, bah, ça sera toujours une formation qu'on aura. Et quand on aura 18 ans, on sera capable de faire un métier. On sera déjà capable de faire un métier et de se lancer en fait dans la vie. Alors que quand on sort de général, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire.
C'était un peu mon cas. Je suis sorti du lycée, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis parti en généraliste, en ingénieur généraliste. Et voilà. Et ça ne me correspondait pas non plus. Et donc, je suis là aujourd'hui à vouloir découvrir les métiers manuels. Ouais. L'agriculture et de l'artisanat. Voilà.
Et voilà. Et peut-être que pendant ta quête, tu trouveras le métier qui te correspond vraiment.
Exactement, je l'espère. Et je pense que oui.
Et c'est pour ça qu'on visite des beaux endroits comme ça. Moi, je voulais poser la dernière question du podcast qui devient traditionnel depuis la dernière fois. on a demandé à Cécile, donc maraîchère, à Péraclo, de nous dire, on va te poser la même question, qu'est-ce que tu voudrais nous dire à propos de tes mains, puisque c'est notre sujet, c'est les mains libres. Et notre thème, pardon, le titre du podcast, c'est les mains libres. Notre sujet, c'est les mains, les métiers manuels. Et ça, en fait, ça me fait rire parce que j'avais anticipé cette question et depuis tout à l'heure, je te vois tripoter un petit bout de cuir et je me dis, c'est vraiment quelqu'un de manuel qui fait des choses avec ses mains. Et voilà, et du coup, je voulais te poser cette question.
Alors là, j'avouerai, je ne saurais même pas comment répondre exactement à cette question.
C'est très vaste. Tu peux nous dire ce que tu veux. Ça peut être description physique, ça peut être qu'est-ce qu'elles t'ont permis de faire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, qu'est-ce que... Voilà, c'est très vaste.
Bah là, c'est sûr que si on regarde mes mains, je n'ai pas des mains de princesse manucurée. Hein, ça, c'est une évidence. Moi, je ne fais pas maison comme les vraies filles. Non, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler, alors après avoir bossé en bijouterie et notamment avec le métier de lapidaire, c'est vrai que j'ai jamais eu de belles mains en bon état parce que j'ai travaillé les mains dans l'eau, parce que j'ai travaillé les mains dans la terre, parce que j'ai travaillé différentes choses. Mais c'est vrai que oui, je pense avoir appris beaucoup et je sais même pas comment arriver à retransmettre ça parce que pour moi, c'est naturel de travailler avec mes mains. Elles me servent forcément à créer, à... J'avoue que j'ai même du mal à dire parce que pour moi, c'est mon outil de travail. J'en prends pas particulièrement soin, mais c'est ce qui permet de donner vie à ma créativité, en fait. Et pour moi, c'est un élément essentiel. Autant je pourrais me permettre de perdre une jambe, je pense que ma vie serait pas trop perturbée. Si je perdais une main, je sais pas ce que je deviens, quoi.
C'est une bonne conclusion.
C'est une très belle conclusion. C'est
vrai que là... Si un jour il devait m'arriver un accident et que je perde une main, enfin je sais pas comment je réinvente ma vie derrière. Autant si je perds un pied, bon je pourrais m'adapter, mais ouais non, c'est un élément, c'est ma tête, mes mains quoi. Vraiment c'est en connexion directe et voilà, je sais pas ce que je ferais sans une main quoi.
Non mais c'est une très très belle conclusion. Mais merci beaucoup Odile pour cette interview et
ce moment passé avec toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode avec Odile. Si t'as aimé la discussion, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Tu peux aussi la partager autour de toi et nous laisser un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Et puis en plus, ça pourra faire connaître les mains libres. L'épisode a été financé du coup par Aline et Gilles, qui nous ont hébergés et nourris pendant toute la période où Poppy était en chantier. Ça nous a fait super plaisir. Et encore merci pour les outils, les conseils et surtout les très bons légumes du jardin, c'était super. Dans le prochain épisode, on retourne au Gaec de la Licorne et ça sera avec Valérie qui a rejoint l'aventure il y a à peu près un an pour s'occuper de la transformation laitière de la ferme. C'est grâce à elle qu'on a du beurre et du fromage. Encore merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt.